Bienvenue à cette deuxième journée du Numérique en commun Sud-Ouest, troisième édition à Mont-de-Marsan, avec aujourd'hui donc le thème de l'intelligence artificielle dans les organisations. Déjà merci pour votre présence. On a senti que le thème de l'intelligence artificielle suscitait une petite attente. Donc on est heureux de voir que vous avez répondu favorablement. C'est un thème qui est un peu difficile d'éviter. En septembre, choisi les thèmes sur lesquels on allait travailler assez rapidement. On s'est dit que c'était quand même compliqué de passer à côté de celui-ci. Et ça se confirme assez souvent au quotidien dans nos syndicats, puisque nous, on travaille dans des syndicats mixtes. Et les collectivités nous interrogent régulièrement, ou si ce n'est quotidiennement, sur l'IA, comment s'en servir, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Alors, déjà, dire ce qu'on va faire ce matin, c'est qu'on va vous faire travailler ce matin. C'est un peu notre enjeu. On n'a pas toutes les réponses. Donc on va vous amener, pas trop nous d'ailleurs, les intervenants vont vous amener des clés de compréhension, des éléments, des outils. L'idée était vraiment de se dire, on travaille sur comment est-ce qu'on peut sensibiliser ces équipes, les acculturer, préparer l'arrivée, un cadre, un contexte favorable à une utilisation raisonnée de l'intelligence artificielle en milieu professionnel. Voilà, on rappelle le contexte. Comme ça, on évite de créer des désillusions, il n'y aura pas forcément de clients. Par contre, on s'engage à ce que vous puissiez repartir avec des choses. Voilà, des choses concrètes, des outils à manipuler, des questions éventuellement, voire un mini plan d'action pour ceux qui iront jusqu'au bout. Voilà. Donc ça, c'était un petit peu le cadrage initial. L'intelligence artificielle, effectivement, je disais, elle s'impose à nous, notamment depuis que OpenAI a lancé ChatGPT et que tout le monde a pu avoir l'occasion d'avoir des discussions avec des agents conversationnels. C'est devenu une réalité quotidienne pour un nombre d'entre nous. Et il y a beaucoup de promesses qui ont émergé, des promesses d'efficience, la libération de certaines tâches répétitives, l'accès simplifié à une quantité de données incommensurable et tout un tas d'autres de promesses. Mais il y a aussi un certain nombre de craintes qui sont en lien avec cet outil. On peut parler de la sécurité des données, notamment. La fiabilité des modèles, qui est un élément qui revient souvent. Est-ce que je peux faire confiance? Il y a aussi des questions plus sociales autour de la perte de sens sur les métiers, voire même la perte de compétences sur certains métiers, ou aussi l'impact écologique de ces usages. Donc on voit que c'est une question simple. Ce matin, on a une heure, donc c'est assez bref, on ne traitera pas tous ces enjeux-là. On a une heure pour réfléchir justement à comment, au sein des organisations que sont les collectivités territoriales, les structures de l'économie sociale et solidaire, quel cadre on peut s'apporter. Et pour ça, on a trois intervenants qui ont accepté de venir avec nous. Alors, je commence par toi, Lucie. Je vais te laisser te présenter ta fonction et d'où tu nous parles.
Bonjour à tous. Je suis Lucie Termignon, je suis du ministère de la Culture, le service du numérique et en charge des sujets d'intelligence artificielle. Et je porte depuis le mois de janvier 2024 le projet Comparia, que vous connaissez peut-être et dont on discutera dans la dernière.
Merci. Marco, je vais te laisser aussi te présenter.
Ouais, bonjour à tous, je m'appelle Marco et donc je travaille à la CNIL. Alors, vous avez peut-être déjà entendu parler d'un vilain mot qui s'appelle le RGPD. Et donc on traite évidemment tous les sujets de protection des données et de facto l'IA est arrivée très rapidement comme un sujet de prédilection et important pour nous. Donc moi mon travail c'est de sensibiliser le grand public, donc d'expliquer autant à des enfants de 8 ans ce que c'est l'IA qu'à des seniors de 70 ans, qu'à des professionnels. Et donc c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Je ne sais pas si vous êtes des seniors, mais vous êtes sûrement des professionnels, ni des enfants non plus.
Merci. Et Guillaume.
Donc bonjour, Guillaume-Emile Jandet, je suis chargé de mission de projet dans un syndicat mixte des Pyrénées-Atlantiques, le syndicat de la fibre 64. Je suis chargé de mission, j'ai une casquette de DPD mutualisé, donc j'accompagne les collectivités territoriales à se mettre en conformité justement avec le règlement général sur la protection des données. Et on a un accompagnement dans les usages du numérique dans les collectivités territoriales du 64, notamment auprès des comités de communes et des communes, sur diverses thématiques. Donc il y a la cybersécurité qui est assez prégnante, mais également l'intelligence artificielle qui aujourd'hui s'impose un petit peu aux collectivités territoriales. Donc notre rôle c'est de les accompagner justement Alors, ces questions que peuvent soulever justement l'apparition de ces nouveautés, de ces nouvelles technologies, les accompagner dans les outils qui existent, en fonction bien sûr de leurs besoins, et on essaye de les éclairer là-dedans pour qu'ils puissent avoir les bons outils pour faire les bonnes choses et les accompagner du mieux possible.
Merci. Donc du coup, je disais, c'était effectivement l'enjeu de la matinée pour nous avec Arnaud. Donc c'est vrai que je ne vous ai pas présenté, Arnaud. Je considère que tout le monde nous connaissait. Je te laisse commencer. Ouais.
Donc moi, je suis Arnaud Léchit et je suis chargé de mission d'inclusion numérique à la FIB 64. Et donc j'organise avec Nicolas et toute l'équipe de l'Alpi et de la Fibre, ce Next Sud-Ouest, entre autres, puisqu'on travaille souvent ensemble sur toutes les questions d'inclusion numérique.
Donc du coup, notre enjeu ce matin en termes d'animation, ça va être de vous faire participer. Pour le coup, on va tenter la folle aventure de vous demander de scanner ce QR code depuis vos smartphones, parce qu'on sait que vous êtes tous équipés de smartphones, on en a parlé hier dans la balade de sobriété numérique. Alors, vous faites sur la base du volontariat, il n'y a pas d'obligation. On est sur un petit participant qui ne collectera pas de données personnelles. Hop, je fais un petit clin d'œil à Marco tant que je dis ça. J'espère que c'est assez gros, j'espère que c'est assez visible. Voilà. Et si ça ne marche pas, ben là je vais pleurer. Ça, merci à Valérie. L'idée va être effectivement qu'on puisse s'appuyer sur certaines de vos réponses pour rentrer dans le. Voilà. C'est vrai qu'il faudrait faire une photo, parce que vu de notre point de vue, c'est assez intéressant ce qu'on voit. L'impression d'être des. Ok.
Est-ce que tout le monde a pu se connecter?
Pas du tout.
Pas du tout. N'hésitez pas à vous rapprocher pour scanner le QR code.
Mais oui.
J'enverrai bien sur WhatsApp.
Et donc, vous prenez pas en photo en même temps.
Il y avait un numéro, c'est vrai, on aurait pu relever le numéro. Des lieux, on est tous sur des usages professionnels et l'idée c'est voilà, où est-ce que vous en êtes vous, avez-vous déjà utilisé l'intelligence artificielle, on est resté large, que ce soit un agent conversationnel, que ce soit un outil intégré par ailleurs, avec quatre options, du coup, oui dans ma vie perso, oui dans ma vie pro, oui dans les deux ou non. Voilà, donc là je vois qu'on a 27 réponses déjà qui ont été enregistrées, donc ça veut dire que pour une bonne partie d'entre vous ça fonctionne, c'est plutôt pas mal.
On va se laisser quelques secondes de 3, 2, 1. T'as vu ? Je viens de faire
ça. Je crois qu'on a 44 réponses, donc du coup, hop.
Et donc, on a une majorité de cibles, oui, dans ma vie pro et perso. Donc, on voit bien que l'intelligence artificielle est partout, autant dans notre vie pro que perso. Voilà, peut-être qu'on peut rebondir un peu là-dessus sur les usages.
Alors, nous, ce qui nous intéressait, au-delà de vous familiariser avec l'outil, ce qui était aussi bien pour se mettre en jambe sur la première question, c'était quand même l'enjeu important de faire rentrer dans nos habitudes aussi rapidement une technologie qui a émergé très vite. Au moins sous sa forme d'agent conversationnel, effectivement, on se rappelle que OpenAI livre ChatGPT au monde en décembre 2023. Je regarde les autres s'ils se rappellent. Lucie, peut-être, je n'étais pas sûr. Oui, c'est ça, décembre 2023. Donc, et on est. L'année en 2022, peut-être. Et très rapidement, effectivement, on voit que les usages, ils ont explosé partout. et qu'aujourd'hui 5% seulement d'entre nous n'a jamais manipulé l'intelligence artificielle. Donc l'émergence, elle est très rapide. Et les questions qu'on s'est posées tout à l'heure, elles sont toujours là. Donc c'est toute la difficulté et l'enjeu qu'on va avoir de pouvoir s'adapter très rapidement à un outil comme celui-ci dans des temps très rapides.
Juste pour dire, sur les 5% qui disent n'avoir jamais utilisé, peut-être qu'ils ont bénéficié d'intelligence artificielle sans le savoir à travers des usages. Vous avez YouTube, vous avez des applications comme ça qui utilisent de l'IA pour vous proposer du contenu qui vous correspond, par exemple. Donc vous ne pensez pas l'utiliser, mais vous avez un outil qui utilise de l'IA.
Juste un petit mot, la semaine dernière, j'ai un collègue qui est enseignant-chercheur dans l'IA qui me disait, bah, il y a 4 ans, quand j'expliquais à mes proches ce que je faisais, un, ils ne voyaient pas ce que je faisais, et deux, ils ne comprenaient pas du tout. Il dit aujourd'hui, la plupart voient ce que c'est l'IA, mais ils n'ont toujours pas compris. Et c'est vrai qu'il y a cet enjeu, aujourd'hui, on est tous au courant de ces sujets, c'est très médiatisé, etc. Maintenant, est-ce qu'on sait vraiment ce que c'est l'IA, ce que ça implique, comment ça fonctionne, etc. Je ne pense pas qu'on ait tous pris conscience des enjeux, et je pense que c'est aussi pour ça que vous êtes là aujourd'hui. Et cet exemple, il est parlant, ça s'accélère, mais aussi pour une partie de la population, et pour une grande partie, c'est assez mystérieux et nébuleux. Et j'entends beaucoup de gens qui assimilent ça à Terminator ou autre. Donc, dans la culture populaire, il y a encore beaucoup de choses à faire autour de l'IA et à la mystifier.
Ouais. Dernière petite remarque, c'est dans une enquête Ipsos de l'an dernier, l'adoption a été estimée à 40% avec des grands écarts entre générations. Et donc c'est une adoption de ces technologies d'IA génératives, conversationnelles, qui est de plus en plus rapide. Là, vous êtes 80% dans la salle à l'utiliser à la fois dans votre contexte de vie professionnelle et personnelle. Et parmi, en tout cas dans cette enquête Ipsos de l'an dernier, parmi les 40%, 66% de ces 40% utilisaient uniquement ChatGPT. Donc il y a un gros enjeu maintenant que ces technologies sont adoptées à sensibiliser le public à la diversité des outils qui existent.
Alors, on va approfondir avec une
deuxième question. Alors, d'après vous, à quelle époque est apparue l'IA ? Au Moyen-Âge, aux alentours des années 90, à l'Antiquité ou en 1956 précisément ? Pareil, on se laisse quelques secondes pour répondre. Je vais refaire le compte à rebours d'ici peu. 3, 2, 1. Est-ce qu'on a un pouvoir laisser un peu plus ? J'étais un peu... Donc, au Moyen-Âge, dans les années 90, à l'Antiquité, ou en 1956, l'année de naissance de mon papa.
Je bloque et je vous affiche le résultat.
Ah, intéressant. On dit principalement en 1956, c'est très précis comme date, c'est souvent ça qu'on voit ça. Et ensuite, dans les années 90, Nico, peut-être que tu peux faire un petit point précis là-dessus.
Alors, d'aucuns trouveront qu'on a été malhonnête dans notre réponse, mais en fait, la réponse correcte que nous on attendait, c'était à l'Antiquité. excuse-moi. Oui, vous voyez, d'aucuns diront que c'était un peu malhonnête. En fait, pourquoi ? Parce qu'en fait, on fait référence un peu au mythe des murs, c'est-à-dire que les unités pensantes créées par l'être humain, qui ont une capacité à réfléchir, c'est un mythe qui suit l'humanité depuis longtemps. En fait, les premiers mythes qui parlent de ça, ils remontent à l'Antiquité. Dès l'Antiquité, on pense à inventer des choses qui vont être capables de réfléchir. Il y a des mythes qui parlent de ça, de la capacité de l'homme à créer. C'est pas une machine, puisque le concept de machine n'existait pas encore, mais qui parle déjà de créer des entités pensantes au même niveau de l'être humain. Alors bien évidemment, c'était un peu malhonnête, c'était une question piège. Hein, oui, voilà, j'en vois qui hausse la tête. Ce qui nous intéressait là-dedans, en fait, c'est que ça ajoute aussi à la question mythologique qu'il y a autour de cet outil. C'est qu'elle est quand même, il est quand même revêtu de toutes ces questions-là et il mobilise du coup des fantasmes. Le fait de créer quelque chose qui va pouvoir réfléchir et qui va nous libérer de certaines tâches. On l'a vu tout à l'heure sur les craintes qu'on a pu évoquer. notamment la crainte de perte de sens dans les métiers et ce genre de choses. Si la machine fait aussi bien que nous, après nous, ça peut nous questionner sur quel est notre intérêt à faire certaines tâches répétitives. Donc ça nous paraissait intéressant. De manière plus proche de nous quand même, 1956, donc effectivement c'était une date qui était tout à fait juste, puisque c'est Alan Turing, je ne dis pas de bêtises. Hein, voilà, à chaque fois je regarde Lucie en termes de confirmation, elle occupe du chef, ça me rassure. Avec, je pense, l'invention vraiment du concept, et après, effectivement, dans les années 80-90, l'accélération des concepts autour de l'intelligence artificielle.
Je ne sais pas si vous voulez revenir là-dessus.
Alors maintenant, on va commencer à s'intéresser un peu plus à notre cadre professionnel. Voilà. Ces deux questions ont été un peu mises en jambe. Il faut vraiment que je vire ça.
Troisième question. Non,
pas celle de Satan.
Comme l'a dit Nico, on va rentrer sur des choses un peu plus précises et sur ce que vous faites vraiment dans vos usages professionnels. Donc là, on va vous demander que deviennent les informations.
Non, je me suis trompé. Excusez-moi.
Tout est. Voilà. C'est celle-là. Et là, on rentre vraiment dans ce que vous faites sans doute au quotidien. Puis-je utiliser une IA pour une production administrative ? Donc, créer un courrier, un compte rendu, une note.
Travailler sur une délibération.
Par exemple.
Une arrêtée. Un marché public.
Alors, est-ce que je peux l'utiliser ? Avec toute l'ambiguïté, oui. Est-ce que je peux ?
Pour le coup, le débat est plutôt tranché.
Donc en effet, tout le monde, grande majorité, 85%, dit qu'on peut utiliser l'IA dans la production administrative. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, à ce niveau ? Est-ce que vous pouvez nous éclairer un petit peu sur est-ce qu'on a le droit ou pas ? Est-ce qu'il y a un contexte réglementaire ?
Alors, pour répondre à la question utiliser l'IA, c'est un outil. Donc on peut utiliser tout à fait des outils pour produire des productions administratives. Ensuite, la question c'est que permet l'outil ? Que va faire l'outil ? Est-ce que l'outil va me donner une réponse et je vais simplement appliquer la réponse et je vais donner cette réponse-là ? Ou est-ce que la réponse qui va être formulée par l'outil, dès je vais l'analyser, je vais plus ou moins la vérifier, je vais savoir comment elle a pu m'être donnée en fonction de quel outil j'ai utilisé. Donc, utiliser une IA, oui, mais ensuite c'est quand même l'agent, quand je parle de collectivité, c'est quand même l'agent qui a le dernier mot pour savoir si ce qu'il va dire correspond à une réalité ou non. C'est pour ça qu'après, bien sûr, rentre en jeu des règlements, des obligations, de la sensibilisation. Parce que si on reprend l'IA générative, il se peut que ce qu'on dit l'IA générative est complètement faux. Donc on ne peut pas se permettre de récupérer une réponse de l'IA générative et de la donner à l'administré comme garant de voilà la bonne réponse. Il y a toujours une vérification ferme, puisque c'est un outil. Ce n'est qu'un outil qui va réaliser quelque chose, mais qui ne va pas donner forcément la vérité ou la bonne solution.
Oui, et donc c'est un outil dont les gens se servent de plus en plus, et de fait il répond à des besoins, mais en même temps c'est un outil qui n'est pas complètement neutre, et qui comporte des risques, et c'est pour ça qu'en général, dans le domaine de l'informatique, on parlait de shadow IT, et c'est toujours la crainte des responsables informatiques d'un établissement ou d'une institution.
Tu peux développer le concept de shadow IT ?
Ben, c'est le fait que dans des équipes informatiques, certains agents parfois développent des solutions ou utilisent des logiciels qui ne sont pas forcément déclarés à l'administration ou à l'établissement. et ça peut poser des problèmes de sécurité informatique pour l'ensemble de l'établissement en question. Et là, ce qui se passe, c'est qu'il y a un phénomène de shadow, pas IT, mais un peu IA qui se met en place, où les gens commencent à utiliser ces systèmes, ChatGPT et les autres, sans forcément le déclarer. Or, quand on utilise ChatGPT ou d'autres outils de ce type, il faut être conscient du cadre d'utilisation de ces outils, dont on n'est pas forcément et dont on ne prend pas forcément la peine de lire toutes les conditions générales d'utilisation. Or, quand on utilise ce type de technologie, en fait, on donne nos données potentiellement, les questions qu'on pose, mais aussi les documents qu'on associe aux questions qu'on pose, etc., au système. Et selon le mode de fonctionnement du système, et la plupart du temps, c'est des systèmes qui sont propriétaires et qui, du coup, gardent les données qui sont données par les utilisateurs. Et ça, c'est un souci, et ça peut poser problème pour l'organisation. Et donc, c'est pour ça que la plupart du temps, de plus en plus, il commence à y avoir des mises en place de chartes au sein des établissements. Par exemple, au sein du ministère de la Culture, depuis le début de l'année 2024, il y a une charte d'utilisation qui n'est pas prescriptive sur le type de technologie à utiliser, mais qui sensibilise déjà l'ensemble des agents. C'est une charte qui s'applique aux agents de l'administration centrale, mais aussi à tous les agents de l'administration déconcentrée, qui du coup informe sur le fait que cette IA comporte des risques, que ça va avec des usages responsables. Et ces risques, c'est le fait de donner des données personnelles.
Déjà, je pense qu'il ne faut pas avoir honte d'utiliser ces outils. Il y a une étude intéressante qui montre que les gens n'osent pas en parler, par exemple, à leur supérieur hiérarchique ou à d'autres collègues, comme si le fait d'utiliser ChatGPT pour travailler fait que finalement on serait un peu moins bon ou qu'on tricherait un petit peu. Et donc, s'il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas d'encadrement, il n'y a pas de sensibilisation, il n'y a pas d'échange. Donc, effectivement, c'est important de pouvoir en parler et de poser un cadre, une charte, etc. Deuxièmement, si je vous demande là de faire 195 divisé par 46, qu'est-ce que vous faites? Vous sortez votre téléphone, vous allez sur votre calculatrice, posez le calcul, et la calculatrice vous donne une réponse. Moi, je fais ça, je suis nul en maths, donc je délègue mes compétences mathématiques à cet outil qui est formidable, qui s'appelle la calculatrice. Est-ce que vous allez, une fois que la calculatrice vous a donné le résultat, prendre un bout de papier et reposer le calcul à la main pour vérifier? Je pense que non, moi je ne saurais même pas le faire. Et donc on a une confiance finalement absolue en cet outil, en se disant, ben voilà, c'est quelque chose qui a été programmé, qui fonctionne, qui est meilleur que moi dans ce domaine, et donc je ne vais pas revérifier le calcul après. Le risque systémique qu'on peut avoir avec de l'IA, c'est la même chose en fait. C'est de se dire, on a des outils qui sont très très performants, qui sont plus doués que nous, et donc quand on leur pose une question, on prend la réponse pour argent comptant et on se dit de toute façon, c'est bon, c'est ça. Là, pour le coup, il faut qu'on ait une approche différente de la calculatrice parce que ce n'est pas la même technique de fonctionnement. L'IA, ça fonctionne avec des probabilités. Et donc, il se peut que l'IA dise à un moment donné n'importe quoi, tout simplement pour pouvoir vous répondre, ce qu'on peut appeler des hallucinations. Donc, elle va inventer, par exemple, un résultat. Et donc, je reviens vraiment là-dessus, c'est hyper, hyper important de garder la main et garder son esprit critique et d'aller vérifier ce qu'on a reçu de l'IA. C'est formidable pour accélérer des tâches, je pense que vous l'avez vu dans votre quotidien. Maintenant, il faut garder quand même un regard humain sur le résultat qui est produit derrière, justement, pour toutes les raisons qu'on a évoquées.
Alors, pour le coup, dans cette continuité, on s'était dit que là, c'était intéressant à ce stade-là de se dire qu'il y a quand même des réglementations qui existent, notamment, voilà, on est dans une zone du monde qui a travaillé sur de la réglementation. Et l'idée, c'est de faire un point sur deux réglementations, donc la réglementation européenne IA Act
Et un point sur le RGPD, sur savoir en quoi il est resté pertinent. Alors, est-ce que Lucie, tu acceptes de faire le petit point sur l'IAT ou pas du tout? Vous faites à deux voix.
Plutôt la main.
Marco. Okay. Donc, on laisse Marco faire la partie.
Je
vais essayer de ne pas faire trop le juriste. En gros, pour faire très simple, l'Europe, comme d'habitude, s'est dotée d'un arsenal, on va dire, législatif. Étant donné que voilà, notre pratique européenne, c'est plutôt de réguler les sujets numériques. Et donc l'IA-ACT, en quelques mots, c'est vraiment une approche par les risques. On a estimé qu'il y avait des choses qui pouvaient être plus dangereuses que d'autres. Donc les premiers, c'est les risques qu'on décide de ne pas accepter dans notre société. Par exemple, c'est le crédit social, comme vous avez en Chine, où on a de l'IA pour noter les gens. Est-ce que vous êtes des bons ou mauvais citoyens, etc. Vas-y, on ne veut pas ça en Europe. Ça va être aussi sur la reconnaissance faciale automatisée sur l'espace public. Donc là, vous promenez dans la rue, des caméras qui vous reconnaîtraient en tant qu'individu, ça on a dit non. En revanche, il y a des exceptions qui pourraient être mobilisables, par exemple dans le cas d'enlèvement d'enfants, d'actes de terrorisme, etc. Mais ça reste assez encadré. Ensuite, il y a des usages d'IA qu'on considère à risque, qui sont moins inacceptables, entre guillemets. Ça va être dans la santé, par exemple, pour toutes les raisons que vous pouvez imaginer. Dans le travail, si on a des algorithmes qui recrutent automatiquement des gens sans qu'il y ait un humain derrière pour vérifier, eh ben ça pose évidemment plein de questions, on parlait des biais juste avant, discriminatoires ou autres. Ça peut être dans l'éducation, avec l'accompagnement des enfants dans les établissements scolaires, etc. Si on délègue certaines compétences des enseignants à l'IA, ça peut avoir des impacts importants. Et ensuite, il y a tout ce qui est IA, on va dire, un petit peu plus... classique que vous utilisez, l'IA générative, donc les agents conversationnels, du ChatGPT, du Le Chat pour Mistral, du Maya, si vous utilisez Snapchat, ou Meta AI, si vous êtes sur WhatsApp. Là, on encadre différemment, c'est-à-dire qu'on n'interdit pas, il y a moins de contrôle, par contre, on va demander de la transparence. Comprendre pourquoi l'IA nous a dit telle ou telle chose, pourquoi elle a sorti telle ou telle information après qu'on lui ait demandé quelque chose. Essayer aussi de permettre aux gens d'exercer leurs droits. Si vous êtes mentionné, vous, dans le ChatGPT, par exemple, vous ayez le droit de supprimer certaines informations qui apparaissent. Accéder aussi à des informations. Et enfin, il y a toutes les IA, on va dire, qui sont plus classiques. D'ailleurs, c'est assez drôle, parce que quand on demandait au début est-ce que vous avez déjà utilisé des IA, en réalité, tous. On a tous utilisé des IA. Le filtre anti-spam qui est dans votre boîte mail, c'est l'intelligence artificielle. Et ça, on considère voilà, que c'est des usages moins développés et donc ils vont être moins encadrés au niveau légal. Donc ça, c'est l'approche du règlement IA. Je ne sais pas si tu veux dire un mot sur ça, Lucie.
Il y a juste le fait que sur l'encadrement spécifique des modèles d'IA conversationnels, ça a été un bras de fer assez long de déterminer à quel point cette transparence était contraignante ou pas pour les acteurs. Et c'est un débat qui n'est toujours pas tranché, puisque le règlement a été certes voté, mais entrera vraiment en application à partir de 2026, et ce de manière progressive. Et donc il y a cet enjeu de comment, quelle forme ça va prendre réellement pour les acteurs, cette obligation de transparence notamment sur les corpus d'entraînement, parce qu'à la fois c'est un enjeu citoyen d'être informé de quelles sont les bases de connaissances, notamment pour être sûr que ça respecte bien le droit d'auteur et qu'il y a, et si possible associer à ça un régime de rémunération équitable pour les droits. Mais en même temps, c'est les acteurs industriels qui sont impliqués par cette problématique arguent du fait que c'est leur sauce secrète et que c'est à leur potentiellement à leur secret d'affaires et ça met en risque leur compétitivité sur le marché mondial. Donc c'est un problème assez complexe.
Assez vaste sujet. Est-ce que tu veux nous dire un mot quand même sur le RGPD et sur pourquoi est-ce que cette réglementation qui date de 2016 en Europe elle est toujours d'actualité et elle est pertinente?
Si vous avez un compte Insta ou Facebook, vous avez dû recevoir il y a quelque temps une information comme quoi justement Meta utiliserait toutes vos données, c'est-à-dire vos publications, vos commentaires, vos réactions, etc., potentiellement des photos de votre famille, de vous, si vous avez publié, pour entraîner son IA. En fait, on le disait avant, de quand date l'IA, c'est-à-dire les concepts mathématiques qu'il y a derrière l'IA, ils sont là depuis les années 50, 60, etc. Simplement, on ne pouvait pas le faire à l'époque parce qu'il nous manquait deux trucs. Il nous manquait des GPU, donc des matériels informatiques assez puissants, et il nous manquait de la donnée. Et
Aujourd'hui, tous dans cette salle, vous utilisez quotidiennement votre smartphone et dans votre poche, on génère des quantités de données assez folles au quotidien. Et finalement, bah, ces données-là, aujourd'hui, elles sont structurées. Et c'est ce qui nous a permis, avec l'évolution justement des processeurs, de créer l'intelligence artificielle. C'est vraiment uniquement parce qu'on a beaucoup de données et de la puissance de calcul. Parce que vraiment, la technique, entre guillemets, mathématique, on la connaissait déjà. Donc la question de la donnée, elle est indispensable. Quand on entraîne une IA, on l'entraîne sur de la donnée. Et donc ça va être sur des choses qui sont publiées, ça peut être protégé par la propriété intellectuelle, mais ça peut être aussi des choses qui sont liées à votre vie privée, tout simplement. Vos messages, on parlait de votre visage, etc. Et donc, le RGPD, il est là pour protéger les données des citoyens. Donc forcément, ça s'applique de manière croisée avec le règlement IA. C'est essentiel. L'idée, c'est de permettre justement un équilibre entre l'entraînement des modèles et les droits des personnes, que ce ne soit pas attentatoire aux libertés, etc., et que vos données ne soient pas trop réutilisées. Il y a plein d'enjeux de données. Je vous donne un exemple. C'est quand des IA vont régurgiter des informations. On s'est rendu compte qu'on pouvait faire un petit peu bugger des IA parfois, en leur parlant d'une certaine façon, pour qu'elles ressortent des données sur des gens. Et donc, il y avait quelqu'un qui avait demandé à l'IA de réciter le mot poème à l'infini. Et en fait, l'IA s'est mise à donner les numéros de téléphone, adresse postale, nom, prénom, date de naissance de personnes un petit peu partout dans le monde. C'est un bug qu'il y a à l'IA, qu'on ne peut pas tellement expliquer. Et donc, il y a des enjeux voilà, de régurgitation de données. Amusez-vous, faites une recherche avec ChatGPT ou autre, en mentionnant votre nom et votre prénom. Vous allez voir ce qui peut sortir, ça va être des photos, ça peut être des informations sur votre travail, etc. Ça scanne une base de données énorme. Et donc le RGPD, il est là aussi en complément, évidemment, du RIA, qui passe sur les mêmes thématiques, forcément, pour permettre aux personnes de protéger leurs données. Et finalement, j'ai envie de dire qu'il n'a jamais été autant d'actualité aujourd'hui avec le développement de l'IA qu'en 2016 ou autre.
Alors, donc du coup, on voit qu'il y a des réglementations européennes qui s'imposent. On a évoqué tout à l'heure la nécessité de poser un cadre en interne. Guillaume, c'est une partie aussi du travail que vous engagez à suivre. Voilà, ça c'est aussi important effectivement de réfléchir à un minimum, même si on n'a pas tout le périmètre qui est traité au sein d'une organisation comme une collectivité ou une petite entreprise. Mais c'est quand même intéressant qu'on se pose la question et qu'on pose un cadre.
C'est ça, étant donné qu'on a vu que dans le cadre professionnel, on utilisait de l'IA. Comme le disait Lucie, le shadow IA, c'est-à-dire j'utilise sans que les supérieurs sachent, j'utilise ChatGPT dans mon coin pour avoir des documents, c'est ça qu'il faut éviter. Donc le but c'est d'en parler, de l'évoquer concrètement dans la collectivité, et si possible de mettre en place un cadre, une réglementation en disant mais qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas faire. Donc ça passe par de la sensibilisation. Et pour revenir sur ce document, ce règlement, ce contrat, l'agent et la collectivité qui pourrait être mis en place, on se rend compte qu'en fait c'est pas trop au niveau de l'outil qui va être mis en avant, parce que les outils changent tellement. Aujourd'hui vous utilisez ChatGPT, dans 6 mois il y aura tellement de nouvelles fonctionnalités que l'outil en lui-même, mais ça sera peut-être plus tout le même, il sera encore différent. Donc on va pas s'amuser au niveau de la charte à faire à chaque fois évoluer ces documents là donc ça sera plus comme pour l'IA au niveau des usages. Ça va être un certificat, un règlement qui va dire qu'est-ce qu'en tant qu'agent, je peux faire au niveau de ces usages, qu'est-ce que ma collectivité m'autorise, qu'est-ce que je ne dois pas faire, en connaissant bien sûr le fonctionnement, en étant sensibilisé sur ces outils-là. Donc ça rejoint un peu l'IA, c'est plutôt au niveau des usages que va se créer, on va dire, ce document-là, plutôt qu'au niveau des outils. Ça ne va pas être une liste d'outils que je peux ou pas utiliser, mais pour telle fonctionnalité, je peux faire ça au niveau de mes usages. Ce sera plutôt comme ça.
Merci. Du coup, on avance sur une question.
Alors, on a un peu parlé de données, mais on va poser la question, que deviennent les informations que vous saisissez dans un outil, comme ChatGPT ou autre, et où peuvent-elles être stockées? Donc, A, elles sont supprimées après chaque session et stockées uniquement en France.
Il fallait qu'il y ait un bug.
Qu'est-ce qui se passe?
Avancé tout à l'heure.
Tu vois les trois petits points que tu peux reload.
On va le faire à main levée.
Start a new round. Oula, j'ai peur. Je le fais sous contrôle de mon collègue Maxime. tu peux donner ses coordonnées, vous savez quoi, j'ai pas peur.
Parfait.
Merci. Merci Maxime.
Donc les cartes de vente sont supprimées après chaque session et stockées uniquement en France. Elles restent sur votre ordinateur et ne quittent jamais le pays. Elles sont utilisées pour entraîner le modèle et sont stockées sur des serveurs situés majoritairement hors de l'Union européenne. Elles sont immédiatement anonymisées et hébergées sur un cloud public européen. J'ai dit l'oignon.
On va la garder.
Ouais, c'est bien quand même.
Tu peux pas la refaire.
L'oignon.
C'est
38 réponses, nous avons encore quelques-unes.
Un souvenir de Ben
Swan. Ça date d'hier soir.
Hop, j'affiche.
Majoritairement de réponse C. Et donc, elles peuvent être utilisées pour entrer le modèle sans stocker sur les serveurs situés majoritairement hors de l'Union européenne. Quelqu'un sur le stockage des données
Et surtout sur l'enjeu de territorialité de ce stockage.
Alors, oui, effectivement, vous avez eu la bonne réponse. Quand on utilise des modèles américains, pour le coup, qui en plus sont gratuits, a fortiori, il y a une utilisation des données qui sont là. Pour alimenter le modèle, donc ce que vous dites va permettre au modèle de s'entraîner. Ces données ne vont pas être stockées à Mont-de-Marsan, sûrement pour la plupart. Et donc, effectivement, ça peut partir aux États-Unis. Il y a un enjeu forcément de souveraineté qui se pose derrière, c'est-à-dire qui a accès à cette information, qui la maîtrise, qui peut la réutiliser, etc. Et donc, pour aller très vite, hein, je vous encourage à vous poser la question de l'outil. Il y a des alternatives, vous avez aussi des alternatives européennes qui existent, françaises. En citer un, il y a Mistral, donc l'entreprise plus connue qui utilise le chat, qui est équivalent un petit peu de ChatGPT. Après, vous avez la possibilité aussi, on y reviendra peut-être, de faire tourner une IA sur vos propres serveurs, donc au niveau local, etc. Ça demande des compétences techniques, évidemment, mais ça permet d'avoir un contrôle sur le transit des données, et surtout, ça vous permet potentiellement de mettre des données plus sensibles dans la machine, parce que ça reste chez vous, vous en avez le contrôle, etc. Donc, point de vigilance, ce qui avait été évoqué au début, quand on utilise ces outils-là, évidemment, on ne met pas de données personnelles d'usagers ou on évite de donner les siennes également, parce qu'on ne sait pas du tout ce qui pourra en être fait derrière, comment l'IA va l'intégrer, comment elle pourrait le régurgiter, on l'évoquait.
Je peux compléter rapidement. Déjà, ce proverbe un peu de quand c'est gratuit, c'est toi le produit. Ça veut dire qu'il y a, même Mistral, en fait, quand on utilise le chat gratuitement sans compte, bah, c'est pareil. Enfin, c'est juste qu'on donne les données à Mistral et que Mistral aura probablement ses serveurs plutôt en Europe. Sinon, dans Comparia, nous, les modèles auxquels on donne accès, donc je ne sais pas si vous connaissez l'outil ou pas, mais c'est un site gratuit accessible en ligne, comparia.beta.gouv.fr, qui donne accès à une très grande diversité de modèles, et à la fois propriétaire et open source. Et donc du coup, vous me posez peut-être la question puisque vous avez les modèles de OpenAI, de Google et tout ça, ça veut dire qu'on donne les données à ces entreprises. Pas exactement, parce que le service qu'on utilise pour pouvoir rendre accessibles ces modèles et les interroger, nous laisse la possibilité de choisir ou non de communiquer les questions qui sont posées ou pas. Et donc nous, on fait le choix de ne pas communiquer les questions. Et par contre, toutes les questions qui sont posées par les utilisateurs alimentent des jeux de données qu'on repartage en open source. Donc enfin, en fait, elles sont quand même mises à la disposition de tout le monde, de la communauté, à la fois des chercheurs, des acteurs industriels, mais même des citoyens, puisqu'elles sont accessibles sur data.gouv.fr maintenant. Et tout ça est expliqué dans les conditions générales d'utilisation du site. Et avant d'utiliser le service, Comparia, on est obligé de donner son consentement de manière consciente en acceptant les CGU du site. Voilà.
Il me permet de dire d'ailleurs que tu animeras avec Simon un atelier tout à l'heure sur Comparia.
Absolument. Si vous ne connaissez pas Comparia ou si vous voulez approfondir votre connaissance de Comparia, on anime un atelier juste après.
Alors, on a commencé à y répondre.
Oui, un petit peu, mais on va quand même poser la question. Est-il possible d'utiliser une IA générative entraînée uniquement sur les données internes d'une entreprise ou d'une collectivité réponse A, oui, cela nécessite de recourir à un modèle dédié, hébergé et configuré en interne ou sur un cloud maîtrisé. Non, toutes les IA utilisent automatiquement des données publiques. Oui, mais uniquement avec l'autorisation de Marco de la CNIL. Et non, les IA génératives sont nécessairement connectées à Internet. Question un peu plus compliquée, les réponses. Arrive de tous. Réponse majoritaire, oui, cela nécessite de recourir à un modèle dédié, hébergé et configuré en interne sur un cloud maîtrisé. Mais oui, c'est possible, encore, c'est pas forcément facile.
Alors, pour le coup, ce qu'on se proposait, parce qu'on a un jeu de temps aussi, je vais reprendre la réponse qui a déjà été formulée sur ce sujet-là, là qu'on peut être au besoin, mais je pense que l'essentiel à comprendre, c'est qu'effectivement, il existe des modèles qui peuvent être installés localement, mais qui nécessitent quand même de la compétence. Alors déjà de la ressource matérielle pour les faire tourner, des enjeux énergétiques, et on va y venir juste après, mais aussi beaucoup de compétences. Donc c'est sûr que voilà, cette solution, elle peut paraître séduisante, elle nécessite quand même d'avoir au sein de ces équipes de vraies compétences dédiées à ça, et je ne pense pas qu'on puisse improviser comme ça en dilettante sur l'installation d'un modèle local et performant en tous les cas. L'installation aussi, peut-être le rendre performant et efficient, c'est quand même peut-être plus compliqué. Je ne sais pas si vous voulez compléter ou...
Okay. Oui, on avance un petit peu rapidement parce que le temps est contraint. Alors, d'après vous, en moyenne, combien consomme une requête combien plus consomme?
Oui, combien de fois plus peut-être?
Combien de fois plus?
Combien de coquilles?
Voilà, combien de plus consomme une requête d'une IA générative comparée par rapport à un Google Classic en fait? D'après vous, est-ce que l'IA générative consomme plus qu'une requête Google et combien de fois plus?
Exactement 49,12.
Ben non, mais c'est hyper intéressant et ça montre deux choses. Enfin, déjà, en fait, c'est difficile de donner une réponse exacte à cette question. Jusqu'à présent, le chiffre qui circulait, l'ordre de grandeur, c'était 10. C'est-à-dire une requête pour une question moyenne, enfin pas très complexe sur ChatGPT, consomme 10 fois plus d'énergie qu'un moteur de recherche, et en l'occurrence Google. Mais en fait, c'est un ordre de grandeur qui est à nuancer. D'une part, parce que ça dépend de la complexité de la question, ça dépend de. Et qui génère des réponses de taille différente. Ça dépend de la taille du modèle qui est utilisé derrière. Selon que c'est un modèle de petite taille ou de grande taille, on consommera plus ou moins d'énergie. Et les ordres de grandeur peuvent vraiment varier. Et puis aussi, côté moteur de recherche, de plus en plus. en plus, je ne sais pas si vous suivez ces actualités-là, mais de plus en plus, les moteurs de recherche de Google et compagnie sont aussi augmentés par des technologies d'IA. Donc, c'est aussi de plus en plus compliqué d'estimer combien coûte énergétiquement une recherche sur Google aujourd'hui. Voilà. Mais donc, je ne sais pas si on revient plus tard en intervenant sur comment on évalue l'impact énergétique.
Non, je pense que c'est idéal pour le faire.
Pas d'accord. Tu vas donc jeter là. C'est la consommation des modèles. Enfin, on parle de consommation d'impact énergétique. En fait, nous, dans Comparia, donc si vous connaissez le produit, vous connaissez le parcours ou à la fin de l'expérience utilisateur, une fois que l'identité des modèles est révélée, on voit aussi ce que ça a coûté en termes d'énergie. Et cette énergie, on l'exprime en water consommé, selon une équation, une méthodologie de calcul qu'on emprunte à Ecologit de la fondation GenAI Impact. Et cette équation, elle prend en compte trois paramètres, la taille des modèles, donc le nombre de paramètres dans les modèles. C'est ce qu'on voit on pourra revenir dessus dans l'atelier, mais dans les noms des modèles, il y a souvent un chiffre associé à la lettre majuscule B, 7B, 70B, tout ça. B, c'est des milliards, et le chiffre associé, c'est le nombre de milliards de paramètres dans le modèle. Et donc ça détermine la taille du modèle, qui a un impact sur la consommation énergétique du modèle. Donc il y a la taille du modèle, il y a la taille de la réponse générée en token, donc les tokens, c'est une sorte de mini-unité de mots. Plus le texte généré est long, plus du coup, ça consomme d'énergie pour consommer, puisque chaque mot nécessite un peu d'énergie pour être généré. Et puis, éventuellement, il y a aussi l'architecture du modèle qui entre en jeu, et comment a été pensé le fonctionnement interne du modèle, qui peut être plus ou moins frugal. Et puis, il y a un quatrième paramètre, c'est la localisation des serveurs qui selon le mix énergétique du pays dans lequel est situé le serveur, a un impact sur le résultat généré, l'énergie consommée en water. Et donc après, nous dans Comparia, cette énergie en water, on en fait une équivalence en CO2, et pour rendre ça compréhensible à l'utilisateur, on exprime aussi en équivalence de temps d'ampoule allumée et de temps de vidéo regardée. Mais en fait, la consommation énergétique, c'est un paramètre parmi d'autres ressources qui sont utilisées pour faire fonctionner et entraîner les modèles. Il y a la consommation en eau, puisque du coup, chaque requête utilise de l'électricité. La plupart du temps, du coup, ça tourne sur des serveurs qui sont hébergés dans des gros data centers qui, en fait, émettent de l'électricité, émettent de la chaleur, et pour refroidir ces grandes salles de serveurs, il faut de l'eau. Il y a aussi tous les minerais, toutes les ressources rares qui sont utilisées pour du coup, fabriquer tout ce qui permet de faire fonctionner ces modèles, donc les cartes graphiques, etc. Et ça consomme énormément de ressources également. Donc il y a beaucoup de travaux de recherche aujourd'hui qui sont en cours sur comment mieux évaluer l'impact, notamment sur les ressources en eau et les ressources rares, au-delà de juste l'électricité. Et puis il y a un enjeu aussi à rendre transparent cette consommation énergétique, à la fois pour les modèles qui sont dits open source, open weight, donc qui sont plutôt transparents sur leur architecture et la taille des modèles. Mais tout le monde des modèles propriétaires, c'est beaucoup plus compliqué d'estimer cette consommation énergétique, et donc il y a des travaux en cours là-dessus.
Il y a une anecdote assez intéressante, ils se sont rendus compte que 10%, je crois, c'est sur ChatGPT, des requêtes étaient liées à des formules de politesse. Donc on est des humains et on disait merci, ou est-ce que tu peux faire ça, etc. Et en fait, si on chiffre ça en impact carbone et en termes de consommation électrique, ça allait coûter des millions en consommation électrique. Donc en résumé, soyez mal polis, c'est un geste aujourd'hui écologique à appliquer au quotidien.
Merci pour cette recommandation. On va s'intéresser donc à notre dernière question avant d'aller vers la conclusion. C'est selon vous, est-ce que l'IA peut-elle être 100% neutre?
Oui, je dirais réponse. Oui, si elle est bien programmée. concepteur et des données d'entraînement. Oui, si elle est utilisée dans le secteur public uniquement. Non, car elle est influencée par les utilisateurs. Ok. Alors les résultats, donc majoritairement 88% disent que non, car elle hérite des biais de ses concepteurs et des données d'entraînement. Peut-être Lucie, au niveau des
gaz de sujet. Lucie, sur la neutralité des modèles.
Ok, ça marche.
Ben,
oui, donc la réponse B,
ben,
c'est la réponse qui me semble la plus juste. Effectivement, les modèles ne sont pas neutres. Le type de réponse qu'ils génèrent dépend des données sur lesquelles ils ont été entraînés, et puis après des différents traitements qui sont faits pendant cette phase d'entraînement, puis d'instruction des modèles. Le moment où on entraîne les modèles, non seulement à générer le mot suivant, mais à être capable de réagir dans un cadre conversationnel, de dialogue. Et donc, ce qui est à l'origine du projet Comparia, par exemple, c'est que, donc à l'époque, en décembre 2023, il y avait des chiffres qui circulaient. Donc déjà, il faut savoir que tous les modèles propriétaires ne sont absolument pas... Enfin, très peu de modèles et d'éditeurs de modèles sont transparents aujourd'hui, tant que, en partie, le règlement sur l'IA n'est pas mis en œuvre, ne sont transparents sur leur corpus d'entraînement. Donc on ne sait pas... Enfin, on sait que ça a été entraîné sur à peu près tout l'Internet, mais... Et donc on sait que ce n'est pas forcément respectueux des droits de la personne ni des droits d'auteur et de propriété intellectuelle. Mais on ne peut pas vraiment l'entrer, on n'a pas la main dessus. Et en décembre 2023, il y avait des chiffres qui circulaient sur quand même certains modèles, etc. Et donc les modèles de Meta, c'est des modèles de la famille Llama. Et à l'époque, c'était Llama 2, c'était la famille deuxième génération. Maintenant, on en est à l'étape Llama 4. Mais donc Llama 2, dans les données d'entraînement du modèle, il y avait des chiffres qui circulaient et qui montraient que la part des données en français, mais c'était le français, l'allemand, l'italien, c'était à peu près les mêmes ordres de grandeur, était de moins de 0,2% de l'ensemble des données d'entraînement du modèle. 0,16% exactement. Alors que le français sur Internet, à ce moment-là, c'est 4 à 5% de l'ensemble des contenus. Et donc derrière cet écart, il y avait l'intuition, mais en fait la réalité, cependant difficile à qualifier et à quantifier, ben que les résultats qui sont générés par les modèles comportent des biais. Et de fait, quand on pose certaines questions, donc à l'époque c'était vraiment souvent, depuis ça évolue, justement il y a des travaux en cours pour essayer de résorber ces biais, mais quand on posait des questions par exemple sur des enjeux de droit, il y avait un ancrage anglo-saxon très fort dans la réponse des modèles. Quand on posait des questions sur l'écologie, c'était pareil, très anti-nucléaire. Je ne dis pas qu'il faut une réponse pro-nucléaire, mais c'est juste qu'il y a des biais dans les réponses générées par les modèles, de même sur les enjeux culturels, parce que c'était l'affaire du ministère de la Culture. Quand on posait des questions, on cite souvent l'exemple de 10 films qui ont le plus marqué l'histoire du cinéma, et il y avait que des films américains dans les résultats sortis par les modèles la plupart du temps. Et donc derrière, il y a un enjeu de pouvoir quantifier, qualifier ces biais objectifs, même si objectif, c'est compliqué en fait. Comment on définit un biais, et c'est pas une question simple du tout à résoudre, mais en tout cas comment on est conscient de ces biais et comment on essaye de les encadrer, contourner ou de les orienter, ou voilà. Mais du coup il faut ça renvoie à des questions philosophiques plus larges de qu'est-ce qu'un biais, quelle est l'objectivité. On a souvent, là je ne sais pas si vous avez suivi, mais en début d'année 2025 il y avait eu la sortie des modèles TIPSIC chinois qui ont fait grand bruit, et une de grandes critiques c'était que c'était des modèles qui étaient censurés, que quand on posait des questions sur la question elle-même, ils répondaient pas et censuré. Mais en fait, ça, donc effectivement, c'est un biais idéologique, et c'est les autorités chinoises qui décident à ce moment-là de contraindre les réponses des modèles. Mais en même temps, ça ne veut pas dire que côté, dans la sphère non chinoise, il n'y a pas de biais non plus. Et en fait, à chaque fois qu'on essaye d'orienter les modèles dans une direction, à penser d'une certaine manière, on implique de nouveaux biais, et on appelle ça biais, mais on pourrait l'appeler autrement en disant on veut que ça respecte les valeurs européennes, mais en fait, c'est réinsuffler d'autres types de biais, mais qu'on n'appelle pas biais parce que ça, c'est aligné avec des philosophies et des principes. Voilà.
Merci.
Non, juste pour compléter, en fait, pour rebondir sur l'histoire de la calculette, en fait, une IA générative n'est pas une calculette, donc ce qui est produit par l'IA générative doit être analysé, et le mieux c'est de demander la source à chaque fois pour savoir sur quoi il s'est appuyé pour apporter cette réponse, pour qu'on puisse savoir qu'est-ce qui a été analysé et qu'on puisse avoir un regard critique en disant je comprends pourquoi j'ai eu cette réponse parce qu'il a été appuyé sur telle source. Donc conseil, c'est toujours demander les sources à l'IA générative pour savoir où il a été puisé ces informations.
On va conclure cette table ronde avec un dernier point. On a essayé d'aborder, c'était pas simple, d'aborder de nombreux enjeux. Alors là, on en a résumé quelques-uns dont on va vous proposer effectivement de vous positionner, vous, en termes de hiérarchisation de ces enjeux. Et puis, on invitera nos intervenants à faire leur conclusion sur ce point-là, en parlant des enjeux ou pas, mais pour qu'on puisse passer à la suite. Donc, je laisse. Je ne sais pas si tout le monde arrive à maîtriser le système de classification des enjeux. Donc, il faut leur donner un score, si ma mémoire est bonne. Je vois que c'est 0 à toi, donc. Vous avez des points à distribuer, je crois. Je vois des gens qui sont au pied du chef, ça veut dire que ça va, ça se passe bien.
C'est pas facile.
C'est pas facile, c'est 3. 100 points sur ce critère, faites à la louche. J'ai envie de dire, les 4 premiers qui votent, on gagne pas sur la salle. Hein, c'est vrai. Ah, on en a 3. On va se laisser encore quelques secondes, comme ça laisse le temps à nos intervenants à préparer. Et nous, on va par contre annoncer le programme pendant ce temps-là, parce que comme ça, on est pas mal.
Tout à fait, donc on va continuer après cette table ronde avec 3 ateliers. Vous pourrez retrouver nos 3 intervenants sur divers ateliers dans la matinée. Juste après cette table ronde, on va retrouver Guillaume sur comment faire monter les collectivités dans le train de l'IA. Lucie et Simon seront sur une présentation de Comparia, dont on a déjà parlé, mais qui sera plus poussée. En parallèle, vous aurez une présentation de Christ, ici, avec Alexis et Eric qui sont dans la salle. Et en troisième partie de matinée, vous pourrez retrouver Marco, qui viendra parler de charte, et c'est de créer une charte avec vous, on l'a évoqué aussi ensemble. Et vous pourrez retrouver Nicolas. Et moi,
c'est la Ligue de l'enseignement aussi qui
oui, la Ligue de l'enseignement,
du référentiel de compétences européennes DIGICOMP dans la formation professionnelle.
Exactement. Et Nicolas et moi, nous proposons un temps de travail sur comment sensibiliser, acculturer les agents. On essaiera de faire quelque chose autour de ça en dernière partie de matinée. C'est assez. Ok. Petit pas rapide important pour la sécurité des données. Voilà.
Dites ça parce que je suis là. Ouais, c'est pour faire plaisir. C'est gentil.
On vous laisse réagir, alors soit sur la classification des enjeux, mais soit sur une conclusion relative à ce thème, table ronde IA, un usage raisonné et professionnel.
Alors, j'ai envie de dire que les 3 premiers impératifs, et même le quatrième, ils peuvent être tous cumulés avec des solutions, justement, si vous faites tourner un modèle local, etc. Donc il y a moyen de réunir les critères que vous priorisez. Évidemment, la sécurité des données, elle est essentielle. Ça peut être des données qui sont liées à vos propriétés industrielles, intellectuelles. Je rappelle par exemple que Samsung a interdit aux salariés d'utiliser ChatGPT parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait des technologies qui développaient, en fait, qui étaient récupérées par l'IA.
Vous, dans vos domaines, ça peut être tout simplement des données sensibles sur les personnes que vous accompagnez. C'est aussi un respect de leur vie privée, de leur dignité, que de préserver justement la sécurité de ces données-là. Et évidemment, il y a des enjeux de responsabilité, de législation autour de ça, si jamais il se passe un problème dans vos structures. Donc, on aura peut-être l'occasion d'en discuter en fin de matinée. L'idée, c'est qu'on vous donne des tips simples à mettre en place pour que vous puissiez tout de même utiliser l'IA. Aujourd'hui, ça devient quelque chose qui est utilisé partout. On le voit, ça a quand même des impacts positifs dans les pratiques professionnelles pour beaucoup. L'idée, c'est que vous puissiez utiliser ces outils tout en ayant des bons réflexes très simples à adopter pour mieux protéger vos données et celles de vos usagers.
Voilà, juste pour compléter, en fait, tous les enjeux sont très importants. Il y a celle de les classer, c'est pas évident de mettre un en parmi en avant par rapport aux autres. Mais je pense que voilà, la partie sensibilisation permet en fait d'avoir déjà en tête tous ces enjeux, de savoir que il ne faut pas donner des données personnelles dans le chat GPT, que ça consomme énormément. Donc, l'IA générative n'est pas forcément la solution. Un moteur de recherche classique ou un fichier Excel va répondre à un besoin qui est suffisant. Pas besoin de demander à ChatGPT de réaliser une action alors que le fichier Excel le fait. Donc en fait, c'est la connaissance, avoir été sensibilisé à ce que fait l'IA, quels sont derrière tous les enjeux de l'IA, pour se dire que en fait, je sais qu'il y a tous un jeu, donc je vais pouvoir choisir l'outil adapté, l'utiliser quand il faut, en fonction de vraiment mon besoin, gagner en productivité, est-ce que je gagne une semaine de travail ou une heure de temps, est-ce que ça vaut le coup de l'utiliser pour quelque chose que je peux faire dans l'heure. Alors, voilà, toutes ces questions, c'est au moins de les avoir en tête par de la sensibilisation dans un premier temps.
Je vais tout à fait dans le sens de ce que vous dites, Marco et Guillaume, c'est-à-dire qu'une fois que vous êtes conscient des enjeux de protection de vos données personnelles et de données protégées par le droit de la propriété intellectuelle, et que vous êtes conscient de l'impact par ailleurs environnemental qu'a la consommation de ces modèles, il ne vous reste plus qu'à quand même essayer d'utiliser ces outils pour vous faire un avis, exercer votre esprit critique et vous poser cette question vraiment fondamentale de tester, de savoir est-ce que ça répond vraiment à mon besoin et est-ce que, étant donné tous les risques que ça comporte ou l'impact environnemental que ça a, est-ce que j'aurais pu m'en passer ou pas. Et donc c'est tout l'objet de cet outil Comparia qui vous permet du coup d'accéder à un très grand nombre de modèles, de les tester, de les comparer, de voir lequel répond potentiellement le mieux à vos besoins ou pas.
Bien, merci. On va faire remercier nos intervenants. Et du coup, les prochains ateliers, contrairement à ce qu'écrit le programme, parce qu'on a un petit quart d'heure, mais à 10h30, on pourra débuter les prochains ateliers. Merci à tous. Merci.